Voilà, bonsoir à tous et toutes. Donc nous commençons comme d'habitude par le texte de l'Écriture. Donc Exode chapitre 19. Le Seigneur appela Moïse de la montagne en disant « Tu diras ceci à la maison de Jacob, et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Moïse vint, il appela les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple répondit unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Voilà, Seigneur, c'est aujourd'hui que tu nous parles. Nous demandons le secours de ton Esprit Saint pour vraiment écouter ce que tu nous dis, pour en être transformé, et que tu puisses, comme avec ton peuple, avoir en nous un peuple de prêtres pour ce monde. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu veux faire à travers nous, malgré notre faiblesse. Amen. Est-ce que ça prend? On n'entend pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un pourrait augmenter pour qu'on se micro aussi?
Dehors, sur la table, l'ancien truc.
Et donc, si je parle comme ça, est-ce que... Tu vois comment régler, Antoine? Ah oui, ça va être jamais. Hein. Vous m'entendez cette fois-ci? Bon, j'espère que vous avez pu prier, même si vous ne m'avez pas entendu. Ça va pas trop fort, pas trop fort. Hein. Un tout petit peu moins, là. Qu'il n'y ait pas de... Donc, pour aujourd'hui, vous deviez lire Exode 19 et 20.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous avez remarqué que le don de la loi, au chapitre 19, est précédé d'une théophanie, donc d'une manifestation de Dieu lui-même. Et le don de la loi est d'ailleurs raconté comme une grande liturgie, avec un médiateur qui monte chercher chez le Seigneur ses paroles, qui les transmet au peuple, qui reçoit du peuple la réponse et qui remonte la portée au Seigneur. Cette liturgie est imposante et même les mots qui suscitent la crainte sont nombreux. Les lecteurs du texte disent que le peuple, au moment où il a vécu cette expérience de la transcendance de Dieu qui s'adresse à lui, l'a vécu dans un moment soit d'éruption volcanique, mais il n'y a pas de volcan en Sinaï comme tel, soit dans un orage terrifiant. C'est possible, bien entendu, mais je crois qu'il faut retenir la leçon que, en présence de Dieu, le peuple a d'abord eu peur. Et nous avions parlé de la crainte et de la peur il y a 15 jours, parce que cette crainte va être transformée. À la fin, Moïse en donne la raison. Il dit au peuple, n'ayez pas peur à la fin, le Seigneur a agi comme ça, il vous a mis à l'épreuve pour que vous ayez la crainte de lui et que vous ne péchiez pas. Donc, c'est comme si c'était désormais une crainte salutaire, comme on a peur de se faire écraser et on ne traverse pas la rue sans précaution et on a peur de perdre la vie. Et cette peur-là est la peur que Dieu a pour nous. Mais ça commence par une expérience de peur comme celle de l'enfant qui subit la première fois la colère de ses parents sans bien comprendre pourquoi. Il y a une colère. Si la colère a lieu avant qu'il ait l'âge de raison, il ne comprend pas pourquoi et il le vit. Il obéira quand même, hein, mais il devra apprendre plus tard la raison de cette peur. Donc il y a la peur, il y a le tonnerre, pardon, les voix, le tonnerre, et le mot tonnerre ne vient pas, mais il y a la voix dans l'orage. Dites une voix de corps, comme dans les liturgies, le corps qui appelle à l'année jubilaire par exemple, la voix de Dieu, les éclairs, et puis un périmètre sacré. On ne peut pas approcher de Dieu n'importe comment. Un sens de qu'il y a désormais sur la terre, au moins au moment de l'Alliance, un espace sacré. Donc c'est quelque chose qui existe dans toutes les religions. Quand on a fait l'expérience de la sainteté, on délimite un espace où ça s'est passé et on n'en approche plus qu'avec respect ou avec crainte. Mais il faudra voir la différence avec les autres religions. Mais surtout, c'est Dieu qui se manifeste lui-même. C'est pas seulement boum badaboum pour faire peur ou je ne sais quoi, ou pour entourer ses commandements d'un sentiment de crainte, mais c'est Dieu qui se manifeste lui-même. Ça veut dire qu'il ne manifeste pas seulement ses volontés. Ce n'est pas un chef puissant qui fait connaître par voie d'affichage ou par la radio ou la télévision quelles sont désormais ses volontés. Il se révèle lui-même et il annonce au peuple son rôle de témoin s'il respecte les dispositions de l'Alliance. Quel sera ce rôle de témoin? Eh bien, ce sera un peuple de prêtres. Donc, vous avez peut-être lu les notes de la Bible de Jérusalem ou la Tobe. L'expression « peuple de prêtres » peut être interprétée de différentes manières. Soit c'est un peuple où chacun a un rôle sacerdotal, et le peuple entier a un rôle sacerdotal vis-à-vis du reste de l'humanité. Et il semble bien que les Juifs le comprennent encore comme ça aujourd'hui. Donc je lisais il y a quelques jours un livre de Robert Aron, « Ainsi priait Jésus », qui nous apprend toutes les prières que Jésus a vraisemblablement apprises en étant un petit enfant. Mais il insiste beaucoup, avant même qu'on parle de prière, sur ce rôle sacerdotal du peuple et sur le fait que le peuple est conscient que la terre qu'il reçoit est une terre sacerdotale aussi, qui doit témoigner de ce que Dieu, si transcendant qu'il soit, si éloigné de l'homme et de la pensée de l'homme qu'il soit, est un Dieu qui arrive à se faire connaître au ras des pâquerettes, si on peut dire, en tout cas au ras de nos oreilles. Donc un peuple sacerdotal. Une autre interprétation, c'est celle de dire que tous les autres peuples sont gouvernés par des rois, et ce peuple-ci n'est pas appelé à être gouverné par des rois, mais par des prêtres, donc par des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Alors, donc, vocation à être un peuple de prêtres, j'opte plutôt pour l'interprétation du peuple sacerdotal. Une nation sainte, c'est-à-dire un peuple où transparaît la sainteté de Dieu. Mais ce n'est pas que cela qui est dit au peuple. Avant de lui donner sa vocation de peuple sacerdotal et de nation sainte, le Seigneur a un petit mot très touchant là, en 19:5. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. Donc le mot qui a été traduit dans la Tobe par part personnelle, c'est le mot hébreu segulla, qui désignait le trésor royal. Ce que l'on a et que l'on chérit. Donc, il dit à son peuple, vous serez mon trésor, mon petit trésor. Voilà. Donc avant même de donner une vocation vis-à-vis de l'extérieur, Il y a une vocation à être quelque chose pour lui, Dieu, et à être son trésor, sa part personnelle. Beaucoup d'éléments annoncent déjà ce que les prophètes développeront, c'est que l'alliance entre Dieu et son peuple est une alliance nuptiale. Donc pas un contrat, pas un asservissement, une alliance entre deux personnes, il faut mettre personne entre guillemets, peut-être avec une majuscule, mais en tout cas deux personnes qui se donnent l'une à l'autre. Alors le conditionnel, hein, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, et qui reviendra très souvent, si vous gardez mes commandements, bien qu'il prenne ailleurs les couleurs d'une menace, hein, si vous ne le faites pas, craque dedans, mais ici, le conditionnel apparaît lié à la fonction sacerdotale et de sanctification de l'humanité. C'est-à-dire que si le peuple devient incolore, s'il n'adore plus le Dieu unique qui l'a libéré, s'il se prosterne devant ce qui fascine tous les autres hommes, hein, leurs idoles, s'il ne pratique plus l'honnêteté, le respect des mariages existants, la vie d'autrui, comme on verra dans les 10 commandements, comment ce peuple serait-il un médiateur entre Dieu et les hommes? Comment serait-il témoin de sa sainteté et de son initiative inouïe? Donc on voit que la conditionnalité n'est pas un Dieu capricieux, qui impose des choses et puis qui dit « si vous ne le faites pas, je vais me fâcher », mais c'est parce qu'il donne une mission à ce peuple. Donc au début, Dieu se présente et rappelle « donc moi, je vous ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage », il rappelle « je vous ai fait du bien ». Donc je vous avais dit en parlant de la création que le récit de la création dans la Genèse est un récit tardif, qui généralise à tous les hommes l'expérience que le peuple lui-même a faite dans sa relation à Dieu. Et ici, on a cette expérience, Dieu est celui qui a fait du bien. Et quand ce sera généralisé, ça donnera le refrain de la création, Dieu vit que cela était bon. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il voit que cela est bon, et à la fin que cela est très bon. Et donc, c'est ici que je reprends le schéma des traités d'alliance, que nous avions abordé donc à la leçon dernière il y a 15 jours. Le premier point dans les schémas de traité d'alliance, donc, c'est que on a le titre du suzerain et les titres des vassaux. Ensuite, on a justement ce rappel des bienfaits passés qui fonde l'alliance. Ici, c'est « Je vous ai libéré de l'Égypte ». Le Seigneur n'insiste pas, il aurait pu dire, comme il le dira ailleurs, « Je vous ai donné la manne au désert, je vous ai donné la source d'eau au désert ». Et puis seulement viennent donc, les stipulations, les articles qui vont préciser comment concrètement l'alliance va pouvoir être vécue. Alors, j'avais dit, il y a un principe fondamental donc, sur lequel je vais revenir. Et puis, il y a toutes sortes de stipulations particulières qui entrent dans les détails de la vie concrète. Donc, comment on va offrir des sacrifices, comment on va punir ceux qui ont agi contre l'alliance, etc. Et cela forme des ensembles de commandements. Donc il y en a trois principalement dans la Bible. Le code de l'alliance, donc c'est celui qui est là, dans le livre de l'Exode. Il y a le code lévitique, donc au livre du Lévitique, qui comporte des prescriptions essentiellement liturgiques, mais qui comprend aussi toute la distinction entre le pur et l'impur, donc ce qui est cachère, ce qui ne l'est pas, et dont on voit moins la raison d'être, disons, quand on dit tu ne tueras pas, bon, tous les hommes du monde peuvent comprendre. Quand on dit à un peuple, il y a des choses que tu peux manger, des choses que tu ne peux pas manger, c'est moins compréhensible. Donc ce sont des règles qui apparaissent comme singulières, propres à un peuple donné, des règles au fond culturelles, quoi, qui peuvent varier d'une culture à l'autre. Mais quand on approfondit le Lévitique, on se rend compte que derrière les questions de pur et d'impur, c'est la question du respect de la vie qui est en jeu. Et c'est pourquoi c'est dans le code lévitique aussi qu'on trouve le plus de prescriptions concernant la sexualité. Le respect vraiment de ce qu'est la sexualité telle que Dieu l'avait en vue entre un homme et une femme pour justement donner la vie et la préserver. Et puis il y a un troisième code dans la Bible qui est celui qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Et qui comporte plein de prescriptions. Alors il y a des prescriptions que l'on appelle apodictiques. Ce sont des ordres comme ça où Dieu parle à l'impératif. Et puis il y a des prescriptions qui sont conditionnelles. Dans telle situation, s'il se passe telle chose, alors il y a telle règle qui s'applique. Bien, dans... Au début des stipulations, donc on a vu qu'il y avait une première règle qui est donnée, qui est de aimer et craindre. J'avais explicité, excusez-moi, je reviens à celui-ci pourvu que ça marche. Mais... Donc, la crainte, c'est aimer sans mettre la main dessus. Donc, Dieu va insister beaucoup pour qu'on ne mette pas la main sur lui, qu'on ne l'emprisonne pas en prononçant son nom et d'autres manières, mais nous avons bien vu que si on veut être aimé, on veut être aimé sans être prisonnier. Et Dieu apprend à aimer. Puis après, on voit qu'il y a des commandements comme respecter son unicité. Donc, bon, ça veut dire ne pas batifoler ailleurs. Hein. Voilà, alors respecter son nom. Bon, je reviendrai. Enfin. Respecter le nom de quelqu'un, c'est respecter sa personne. C'est pour ça que normalement, on ne fait pas des jeux de mots avec des noms de famille. Même si certains noms de famille viennent de jeux de mots. Voilà. Mais on sent bien que c'est gênant quand un nom n'est pas respecté. Quoi. Parce que quelle que soit son origine, quelle que soit sa signification commune, c'est la personne qui le porte qui lui donne son sens et pas l'inverse. Alors, bon, il y a le sabbat, hein, donc j'avais dit que l'alliance c'était comme des rendez-vous. Bon, voilà, et les autres commandements. Alors, ce que je vous avais expliqué, c'est que justement, ça ne se passe pas comme j'écris ici. Le premier commandement, aimer et craindre, n'est pas le premier de la liste, et puis il y a le deuxième, etc. Ce qui se passe, c'est que l'injonction d'aimer et de respecter, et on peut ajouter à partir d'autres textes bibliques de servir Dieu, ce commandement-là, il doit être l'âme de tous les autres. Il n'est pas le premier d'une liste, il est celui qui justifie tous les autres. Si on évite d'avoir d'autres dieux, même d'aller batifoler ailleurs, c'est parce qu'on aime le Dieu qui nous a appelés, qui nous a joints. Si on ne fait pas d'image, qu'on refuse d'avoir des idoles, c'est parce qu'on l'aime et qu'on le respecte. Et ainsi de tous les commandements, y compris tous ceux qui touchent la vie en société. Donc j'avais exposé ça la fois passée, le commandement numéro 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, est celui qui donne son sens à tous les autres. Alors, entre cette stipulation générale, ce principe des commandements, et tous les autres commandements qui constituent ces codes, il y a une sorte de relais, et ce sont les 10 paroles. Alors, l'expression « les 10 paroles » est déjà attestée dans l'Écriture même. Ce ne sont pas les catéchismes des catholiques ou des protestants qui ont inventé cette mise en exergue de 10 paroles. Donc, on en parle déjà en Exode 34-28, en Deutéronome 4-13 et en Deutéronome 10-4. Ça veut dire que trois fois, les rédacteurs de la Bible ont employé cette expression « les 10 paroles ». Donc, elles ont un statut spécial. Elles commencent déjà à être des stipulations particulières, et en même temps, on voit bien qu'on ne peut pas mettre sur le même pied « tu ne tueras pas » et « tu respecteras les limites de vitesse et tu rouleras à droite dans la rue ». Donc, ces 10 paroles ont été mises en tête du Code de l'Alliance, d'une part, ce que vous avez lu aujourd'hui en Exode 19-20, et en tête du code deutéronomique d'autre part. Donc, alors, les premiers de ces commandements, donc vous avez la liste, vous avez la feuille. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas mon nom en vain, tu respecteras le sabbat, sont au fond une clarification ou des précisions de la stipulation générale. Comment aimer le Seigneur son Dieu, comment le craindre ? Les trois premiers ou les quatre premiers commandements le disent clairement. Alors, j'insiste toujours, il s'agit du Seigneur qui a libéré son peuple d'Égypte. La doctrine catholique, la réflexion théologique, pas seulement catholique, la réflexion théologique des chrétiens, a reconnu que dans ces 10 commandements, il y a des prescriptions qui, au fond, sont valables pour tous les hommes, sauf celle du sabbat. Donc, on est dans quelque chose qui ressemble plus au code lévitique, là. Et on a beaucoup travaillé ces 10 commandements en tant qu'ils sont une loi universelle. Et avec le temps et le développement du christianisme, on s'est mis à tellement insister sur le fait que ces 10 commandements sont universels qu'on a oublié qu'ils ont un lien avec « Moi, ton Dieu, qui t'ai libéré d'Égypte ». Je ne sais pas si vous sentez la différence. Si on dit qu'il y a 10 commandements qui sont universels, que toute raison humaine peut découvrir, etc., on est dans le général. La loi s'impose parce qu'elle est générale. C'est le principe des codes napoléoniens. Avant Napoléon, chaque seigneur avait ses propres lois sur son territoire, et on n'avait pas de loi générale. Et le principe de la loi depuis les codes napoléoniens, c'est qu'il n'y a pas d'exception aux lois. Tandis que dans le code de droit canon, qui est antérieur, la dispense est un élément essentiel dans le droit canonique. Les lois doivent pouvoir être adaptées aux personnes, et l'autorité qui a édicté la loi doit pouvoir donner une dispense. Ce n'est pas prévu dans la loi civile, si vous voulez. Donc la généralité de la raison s'est mise à l'emporter. Et on oublie que pour obéir au commandement, en fait, il faut avoir reçu la bonté de quelqu'un. Sinon, on obéit comme un esclave, mais on n'est pas capable d'obéir par amour, quoi. Ce qui est la vraie raison de l'obéissance à une loi. Alors, sur la feuille que vous avez reçue, vous voyez qu'il y a trois colonnes de numérotation. Donc, c'est bon à savoir, surtout si on fait du dialogue interreligieux, même simplement du dialogue interconfessionnel dans le christianisme. Donc, je prends la colonne du milieu, c'est la numérotation des rabbins dans le Talmud. La première parole, moi, Adonai, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Il n'y a aucun commandement. C'est une parole où Dieu se présente. Et pour les Juifs, la parole primordiale, c'est celle-là. Donc, ils ne parlent pas de 10 commandements, eux, à cause de cela. C'est pour ça qu'ils disent les 10 paroles. Et l'expression, le décalogue, donc 10 paroles en grec, vaut mieux que de dire 10 commandements, parce qu'on respecte cet aspect-là. Alors ensuite, tu n'auras pas d'autre Dieu. Le premier commandement est la deuxième parole. Et ce tu n'auras pas d'autre Dieu comporte l'explicitation, tu ne feras pas de statue, etc. Bien. Et après, le troisième commandement dans la colonne du Talmud, là, c'est tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. Bon, après, le découpage est le même, même si la numérotation est différente. Alors, saint Augustin, lui, a adopté un autre découpage du texte de l'Exode et du Deutéronome, qui est la troisième colonne. Et le premier commandement, donc j'ai mis des guillemets autour du 1 là, comporte les versets 6, 7, 8, 9, 10, et en fait, il est traduit dans nos catéchismes par « Un seul Dieu adorera et aimera parfaitement ». Donc c'est ce qui concerne l'adoration du Dieu unique. Il a laissé tomber, puisqu'on commence par un commandement, dans ce qui est enseigné dans nos catéchismes, on a laissé tomber « Moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et puis, il prend comme deuxième commandement « Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur ». Alors, comme il a pris un retard sur la numérotation du Talmud, là, puisqu'on est au numéro 2 alors qu'il était au numéro 3, il faut bien en trouver un dixième à la fin. Et donc si vous prenez en face du 10 en chiffre romain, saint Augustin a distingué le verset 21, le début du verset 21, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » et de la deuxième partie du verset « Et tu ne désireras pas la maison de ton prochain » son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, etc. Donc, le découpage de saint Augustin a au moins cet honneur-là de dire que la convoitise qui porte sur la femme n'est pas la même que la convoitise qui porte sur les biens. Parce que dans le texte de l'Exode que vous avez lu aujourd'hui, qui n'est pas celui que vous avez sous les yeux, on dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son bœuf ni son âne. » Bon, cette version-ci est déjà meilleure, la femme est en tête, mais chez saint Augustin, elle est encore plus en tête puisqu'elle est vraiment distinguée du reste. Et vous savez que dans le droit actuel, la distinction qui était enseignée comme la distinction absolument essentielle, c'est la distinction entre les personnes et les choses. Et c'est le drame de notre début de XXIe siècle, c'est qu'en Occident, avec le statut de l'embryon, on ne sait plus si c'est une personne ou si c'est une chose. Et est-ce qu'on peut commander un enfant à une mère porteuse, des choses comme ça? Le statut de l'embryon, justement, ne respecte plus cette distinction capitale, en tout cas plus clairement dans l'esprit de certains législateurs. Soit, je reviens donc. Cette numérotation de saint Augustin, elle a été adoptée par Luther, et donc tous les luthériens, et par les catholiques. Donc là, nous avons un point commun avec les luthériens, c'est notre division. Par contre, les orthodoxes d'une part, et les calvinistes d'autre part, ce n'est vraiment pas les mêmes confessions, si vous voulez, ont adopté une autre numérotation qui est dans la première colonne. Et donc, qui omet aussi « Moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », mais qui distingue deux commandements dans les versets 7, 8, 9, 10. Donc en distinguant « Tu n'auras pas d'autre Dieu » et « Tu ne feras pas de statue, aucune forme, etc. » Bon, ceci, c'est pour que vous vous rendiez compte que on a une image différente des commandements selon les numérotations aussi, puisque pour les Juifs, les commandements, donc en chiffres romains 1 à 5, constituent la première table de la loi, le respect des parents étant la charnière entre le respect de Dieu et le respect de tout le reste de la société. Et les cinq derniers commandements forment une deuxième table qui sont les règles de la vie en société. Mais donc ils ont deux tables équivalentes, si vous voulez, de 5 commandements chacune. Tandis que chez nous, dans l'art, dans les tableaux, vous verrez ça, quand Moïse reçoit les deux tables de la loi des mains de Dieu sur le Sinaï, nous on a 3 commandements dans la première table, et puis 7 dans la suivante. C'est un peu moins équilibré si on veut. Alors, je vais parcourir avec vous ces commandements en reprenant le début. Donc, c'était le texte de la fois passée, le texte de la fois prochaine, puisque c'est le Deutéronome, mais c'est pas grave. Moïse convoqua tout Israël et il leur dit : Écoute, Israël. Donc, ici, on a un autre premier commandement que aimer et craindre. Écoute. Vous savez que c'est le début de la règle de Saint Benoît aussi. Écoute Israël. Écoute les décrets et les règles que j'énonce à vos oreilles aujourd'hui. Alors ici, il y a deux mots, décrets et règles. Le plus souvent, dans le Deutéronome, il y en a 3. Les lois, les décrets et les règles. Ou les préceptes, les décrets et les règles. On peut changer de mot si vous voulez. Mais c'est intéressant de voir que Moïse, c'est-à-dire ceux qui ont rédigé la version finale qui est attribuée à Moïse, sentaient bien qu'il y a des différences entre les commandements. On ne met pas tout sur le même pied, quoi. Voler une allumette et provoquer un accident de voiture en étant responsable, c'est pas la même chose. Donc, il y aura une gradation. Donc, on a déjà un principe d'interprétation du fait que tout n'est pas sur le même plan. Vous les apprendrez et vous veillerez à les exécuter. Adonai, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Alors, ici, il faut préciser que le Deutéronome, c'est un livre où seul Moïse parle, du début à la fin. C'est pas la toute fin, puisque celui qui raconte sa mort, ça ne peut pas être Moïse. Mais sinon, le Deutéronome est découpé en 4 discours qui sont prononcés par Moïse en une seule journée. C'est le même jour que Moïse reprend l'histoire du salut et qu'il la raconte à qui ? À la deuxième génération. La première génération, ayant désobéi, n'entrera pas dans la terre promise et elle meurt dans le désert, sauf Josué qui va conduire le peuple et Caleb ou je ne sais plus qui est l'autre. Et donc Moïse parle ici à la deuxième génération et il dit : Dieu a conclu avec nous. Nous, une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec vos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais c'est avec nous, nous-mêmes qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. Le Seigneur a parlé avec vous, face à face, sur la montagne du milieu du feu. Tous de la deuxième génération n'étaient pas nés au moment du face à face. Donc il y a une confiance ici dans le fait que l'expérience de Dieu est transmissible. Ceux qui ont vu Dieu sur le Sinaï ont pu transmettre à leurs enfants cette expérience, au point que Moïse peut leur dire : Dieu a parlé avec vous, face à face, sur la montagne, alors qu'il n'y était pas. Mais nous le savons bien, n'est-ce pas ? Parce que nous, comme chrétiens, nous avons cette chance depuis Saint François d'avoir des crèches. Nous sommes tous allés à la crèche. Vous êtes allé à la crèche, enfin je vous le souhaite. Et on va voir l'importance de ça plus tard aussi. Et moi, je me tenais alors entre Adonai et vous, en ce temps-là, pour vous annoncer la parole d'Adonai, car vous aviez peur à cause du feu, et vous n'étiez pas monté sur la montagne. Il disait : Moi, Adonai. Le premier qui a le droit de dire « je », c'est le Seigneur. Je le dis parce qu'aujourd'hui, nous sortons de tout un siècle, enfin nous sortons de 5 siècles de personnalisation, de la morale, de personnalisation de la culture, qui est en train, le personnalisme est en train de virer en individualisme. Et dire « je » au XVIe siècle, c'était encore quelqu'un qui se sentait membre d'une famille, d'une patrie, d'une lignée qui disait « je ». Aujourd'hui, quand on dit « je », c'est moi tout seul « je ». Et depuis que Freud a appris qu'il faut tuer son père, Donc, ça ne me ressemble pas très, très bien à ressembler au commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ». Enfin bon, Freud a cru qu'il fallait le dire. Mais donc, on doit avoir tué son père, donc on doit ne pas avoir d'origine, quoi. C'est bon de se rappeler que le premier « je », celui auquel notre « je » doit ressembler, c'est celui du Créateur. Ça donne une autre proportion au petit mot « je » que nous utilisons si facilement. « Je suis ton Dieu ». Donc, comme je vous l'ai dit, c'est nuptial. « Ton Dieu, mon peuple », ce sont les deux expressions que s'échangent les partenaires de l'alliance nuptiale. « Ton Dieu », cette humilité de Dieu qui se laisse approprier par un peuple. Vous allez pouvoir dire « c'est notre Dieu ». Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Donc, rappel d'une libération. La suite, donc le deuxième pour les Juifs. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Alors, cette unicité de Dieu, donc pour nous, elle nous a été enseignée depuis que nous sommes tout petits. Elle a une histoire. Hein. Nous savons que si le mot qui dit Dieu en hébreu, c'est Elohim au pluriel, c'est probablement parce que les premiers croyants croyaient au divin et à des forces divines, mais ils n'avaient pas encore identifié clairement que Dieu est unique, qu'il n'y en a qu'un. Il y a eu une évolution dans le peuple, mais une fois que c'est reconnu, on ne peut plus faire marche arrière. Donc ça, c'est en matière de religion et de morale. Il y a des acquis sur lesquels on ne doit jamais revenir en arrière. Mais donc, quand ils ont pris conscience que le Dieu qui s'adressait à eux était le Dieu unique, qu'il ne fallait pas en honorer d'autres, ils ont compris que Dieu demande cela, donc d'être reconnu comme le seul qui a autorité sur nous. Je crois que je vous ai dit ça, j'ai peut-être oublié. Le père Beauchamp disait que la crainte de Dieu, c'est d'avoir peur de Dieu et de rien d'autre. C'est très fort comme formule. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne craindras que moi. Parce que nous nous asservissons à tellement d'idoles pour sauver notre réputation, parce que le regard des autres compte et tout ça. Et Dieu veut être Dieu l'unique. Le père Xavier Dijon, il avait même cette formule. Le Père, dans la Trinité, il a accepté d'être Dieu pour nous libérer de toutes nos idolâtries. On a toujours l'impression que c'est Dieu qui a le pouvoir, là, qui nous impose des choses. C'est par humilité que le Père accepte d'être Dieu pour nous sauver de toutes nos idolâtries. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Avec le Nouveau Testament, c'est encore plus compréhensible quand on sait que Dieu est amour. Ensuite vient le commandement, tu ne feras pas de statue, aucune forme, c'est la traduction du chanoine Hostie, donc tu ne feras pas d'image. Alors c'est notre tentation permanente, c'est de vouloir, quand on a fait une expérience heureuse dans la vie, de vouloir la reproduire. Et quand on a eu une rencontre avec quelqu'un, un endroit qu'on aime, on aime y retourner. Mais ça peut devenir une tentation d'obliger l'autre à revenir à tel endroit parce qu'on veut revivre soi telle expérience. Et avec Dieu, c'est comme ça aussi. On a envie de figer l'image qu'on s'est faite de lui dans les moments heureux dans justement la perception que nous-mêmes on en a eue. Et Dieu refuse cela. Et ça a l'air parfois... Enfin, c'est déroutant. Je vous avais dit la fois passée que la connaissance de Dieu passe par ce moment de nuit, de négativité, où Dieu veut montrer qui il est vraiment et que toutes les images qu'on a de lui, c'est pas bon, c'est pas suffisant, il est autre chose, il est plus grand que ça. Et l'interdiction de faire des images, c'est l'interdiction donc de mettre la main sur Dieu. Hein, et je pense à un exemple ici, j'espère que je ne vais choquer personne, mais c'est les gens qui disent, j'en ai eu qui m'ont harcelé, tu dois prier le chapelet. C'est comme ça qu'on est en contact avec Dieu. Et si tu ne pries pas le chapelet tous les jours, tu... Quoi ? Dieu ne se donne que dans le chapelet ? Il se donne à certains vraiment dans le chapelet. Hein, et soyez fidèles au chapelet si Dieu s'y donne à vous. Mais pourquoi aller faire une image de Dieu qui se donne dans le chapelet que je dois aller imposer aux autres? Et ça vaut pour l'adoration du Saint-Sacrement, ça vaut pour la messe catholique et tout. Est-ce qu'on peut figer Dieu dans une image ou est-ce qu'on va laisser Dieu être libre de se donner comme il veut et au-delà des images où il s'est déjà donné? L'enjeu, c'est que Dieu puisse être assez grand pour que la vie soit acceptable avec toutes ses surprises, bonnes et mauvaises, quoi. Sinon, on va dire, il n'y a de Dieu que si les choses vont comme je m'y attends. Donc, comme je me suis fait l'image que Dieu devait être. Et forcément, nous avons l'image d'un Dieu Père Noël, puisque nos parents ont été des Pères Noël pour nous pendant des années, quoi. Ils se sont occupés de nous gratuitement, pendant des années, jour et nuit, hein, à nous laver quand nous étions sales, à nous nourrir, à nous habiller, etc. Et donc, Dieu doit être le Père Noël ou le Saint-Nicolas. Et puis quand il ne l'est pas, alors il n'existe pas. Doucement, est-ce que c'est vraiment Dieu? Bon. Donc, tu ne feras pas d'image de Dieu. Alors, le père Jean-Marie Hénault lui enseignait en plus ceci, c'est que Dieu a interdit de faire des images de lui parce qu'il n'y a qu'une seule image de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Évidemment, ça, c'est encore autre chose, hein, que la compréhension, tu ne te feras pas d'image. Mais depuis l'incarnation, nous savons que c'est vrai, chacun, chaque autre est image de Dieu. Et c'est le seul qui est absolument respectable. Tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne les serviras pas. Donc ça, les cultes idolâtriques, j'allais dire, l'avantage quand il y avait des idoles, c'est que quand on évangélisait, on pouvait casser les idoles. Dans nos sociétés, l'idolâtrie est subreptice, puisque nous ne savons pas que nous honorons les comptes en banque et les banques. Nous ne savons pas que nous honorons Astarté, la déesse du sexe. Nous le faisons, nos sociétés le font, mais il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de temple où on peut aller le démolir, quoi. Enfin, peut-être essayer d'obtenir qu'il n'y ait pas un sex shop quelque part, mais la lutte contre l'idolâtrie est plus difficile, hein, de nos jours. Elle est beaucoup plus déguisée. Je suis un Dieu jaloux, voilà. Je vous ai expliqué pourquoi il est jaloux. S'il n'est pas le seul Dieu, nous tombons dans des esclavages. Châtiant la faute des pères sur les fils et sur la troisième et quatrième génération pour ceux qui me haïssent. Donc, l'expérience biblique est que il y a des châtiments que l'homme porte et qui viennent des fautes du passé. Bon, ça c'est assez clair. Heureusement, il y a eu Schuman, Adenauer, Monnet et d'autres pour créer l'Union Européenne, et on peut vivre les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale cette année en invitant Madame Merkel, hein, et en lui reconnaissant un statut et tout. Mais habituellement, la génération qui suit celle qui a fait une guerre, elle porte toute la honte des parents alors qu'elle n'y est pour rien, quoi. Donc on voit bien que les péchés ont des conséquences au-delà d'une génération. Mais au début, c'était sans doute pas clair dans l'esprit des Hébreux. On voit une évolution, surtout chez les prophètes. On a l'impression qu'on doit payer les fautes antérieures, comme si Dieu punissait encore au-delà de ceux qui sont coupables. Et à un moment, ils ont ajouté « pour ceux qui me haïssent ». Donc, le châtiment continue si on continue dans la faute des pères, mais pas tout court. Alors, nous avions un juif converti ici, qui est devenu moine par la suite, qui nous expliquait que ce n'est pas châtiant la faute des pères sur les fils et sur la troisième et quatrième génération, c'est suivant à la trace la faute des pères. Dieu suit à la trace la faute des pères jusqu'à la quatrième génération. Alors, il faut continuer pour bien comprendre. « Mais témoignant fidélité à des milliers, on peut comprendre des milliers de générations, pour ceux qui m'aiment et observent mes commandements. » Donc si on persévère dans la justice de ses parents et de ses grands-parents, eh bien on prolonge l'accueil des bénédictions, et c'est quasi à l'infini, des milliers de générations. Donc 1000 générations, c'est 25 000 ans. Hein, bon. Donc on n'y est pas encore pour l'histoire écrite de l'humanité à 25 000 ans. Mais c'est surtout la disproportion qui est intéressante. Le péché a des conséquences, il affecte plus d'une génération, souvent jusqu'à la quatrième, mais la justice, elle porte des fruits. Donc entre 1000 et 4, ça fait au moins 250, quoi, 250 fois plus. Donc une disproportion entre le bien et le mal. Ensuite, tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom en vain. Donc, vous avez remarqué, je vous avais déjà dit, les Juifs ne prononcent jamais le tétragramme, une manière de respecter la transcendance de Dieu. Donc ça, c'est une manière de respecter son nom. Je crois que le verset fait surtout allusion au serment, puisque pour garantir sa parole, on disait par le Dieu Tout-Puissant, je jure que, ou en tout cas on invoquait la puissance divine pour dire ben, si je suis en train de mentir, c'est pas seulement toi à qui je mens qui peut te venger, mais celui que j'ai invoqué aussi. Et donc, ne pas faire de faux serments est inclus dans ce respect du nom du Seigneur. Mais je crois que ça inclut aussi les malédictions. Donc, nous n'avons pas à utiliser le nom de Dieu pour nous faire obéir. Bon, ça n'arrive plus maintenant, parce que Dieu n'est plus assez connu dans les familles non plus. Enfin, il y en a parmi vous qui ont dû entendre, si tu fais ça, le bon Dieu te punira. Voilà. Et on se sert de Dieu pour augmenter son autorité à soi. Je ne dis pas que c'est toujours faux. Hein, ça, c'était peut-être pédagogiquement juste quand ça a été fait avec vous, mais en tout cas il faut être prudent, quoi. Ne pas utiliser le nom de Dieu à des fins personnelles. Le nom de Dieu, c'est pour s'adresser à lui, donc pour être à l'écoute. Alors, quatrième commandement chez les Juifs, troisième chez nous, le sabbat. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Alors, vous remarquerez que c'est le premier impératif de ce que nous croyons être les 10 commandements. Il n'y a que 2 impératifs dans les 10 paroles, c'est « observe le sabbat et honore ton père et ta mère ». Donc c'est ce que j'appelle des commandements apodictiques, ils sont donnés comme ça, pas conditionnellement, comme ça. Fais-le, observe le jour du sabbat, honore ton père et ta mère. Je vous avais déjà dit l'importance des commandements positifs pour les enfants. Va te laver les dents. Donc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce que Dieu demande de ne pas faire, il le dit à l'inaccompli. En hébreu, il n'y a pas de futur. Hein. C'est traduit au futur en français, mais c'est pas mal dans ce cas-ci. Avec la négation. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras pas de statue. Je ne sais pas si vous percevez la différence entre quelqu'un qui dit à son employé « Prends ceci et va à la poste et mets tout dans la boîte aux lettres. » Et celui qui dit à son fils « Tu vas prendre ce paquet, tu vas sortir de la maison, tu vas aller dans la rue, tu vas prendre la deuxième à droite, tu vas arriver au bureau de poste, tu mettras les lettres dans la boîte aux lettres. » La parole qui dit « tu feras ceci ou tu ne feras pas cela » est une parole qui accompagne pendant tout le trajet, si vous voulez. Donc Dieu est avec nous quand il nous demande de ne pas faire ceci ou, justement dans ce passage-ci, on va voir, il y a un inaccompli sans négation. Donc il a dit « observe le jour du sabbat pour le sanctifier selon ce que t'a commandé Adonai ton Dieu » et puis « pendant 6 jours tu œuvreras ». C'est le seul futur positif du texte. Tu travailleras pendant 6 jours. Donc c'est le salésien de Paris, là, moraliste, son nom m'échappe maintenant, ça ne vous dit rien. Xavier Thévenot, qui insistait là-dessus, sur le fait que dans les 10 paroles, il y a une parole qui dit « tu travailleras ». Pas « travail », mais « tu travailleras ». Je t'accompagne là-dedans, mais tu travailleras 6 jours. Notre vie quotidienne fait partie de cette alliance, comme ça. Donc, observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Donc, je dis, c'est un rendez-vous avec le Seigneur, pas seulement un temps de repos. Et en même temps, les justifications qui sont donnés dans le Deutéronome de ce commandement, c'est ceci: tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils. Tentation de faire travailler quelqu'un d'autre si on ne peut pas travailler soi-même. Ni ta fille. C'est pas évident, vous savez, pour la culture patriarcale du Proche-Orient, d'avoir inclus le repos des filles, qui étaient considérées comme des servantes, hein, à la maison. Ni ton serviteur, ni ta servante. On comprendra encore qu'on respecte ses enfants. Ni ton bœuf, ni ton âne. Alors, dans l'ordre ne nous plaît pas, mais enfin, ni ton résident, donc l'immigré qui est chez toi. Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Donc, le repos dominical comme un droit même de l'étranger, c'est-à-dire de celui qui ne le fait pas pour respecter le sabbat. Le repos dominical pour tous. Donc on voit comment le commandement exigé pour une personne doit faire du bien aux autres. Et la justification, donc la première justification, c'est l'extension, mais la deuxième justification qui fait appel à la mémoire, c'est: tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir par une main forte et par un bras étendu. Chaque dimanche, chaque arrêt de travail est l'occasion de se rappeler qu'on a été sauvé, qu'on est passé d'une situation où le travail pèse avec ses exigences, hein, et les relations de travail qui sont parfois bonnes mais pas toujours, etc. Et on en est libéré, entre guillemets, donc une journée. Et c'est ce passage qui fait goûter ce qu'est le bonheur que Dieu veut pour nous, pourquoi il nous appelle. Vivre ce passage comme la révélation du visage de Dieu. Nous n'avons pas été esclaves en Égypte, mais nous pouvons sortir de la pénibilité du travail et le vivre comme un don que le Seigneur nous fait. Donc, dans le texte que vous avez lu aujourd'hui, dans Exode 20, la justification du sabbat n'était pas la libération d'Égypte, mais le repos du Seigneur au septième jour de sa création. Donc, ce qui a un autre avantage, qui est de montrer que l'homme, en respectant les commandements, imite Dieu. Donc, poursuit l'agir de Dieu sur la terre. Alors, avec ces trois premiers commandements dans notre numérotation, quatre premiers dans la numérotation juive ou orthodoxe et calviniste, nous avons terminé les commentaires longs. Donc, il y a une note de la Taupe qui dit que probablement au départ les 10 paroles étaient des paroles assez brèves, faciles à retenir. Et après, on a dû ajouter des explications et on voit qu'il y a deux choses qui ont demandé des explications. C'est le refus de l'idolâtrie, sans doute que c'était plus difficile à respecter, et le respect du sabbat, qui reste difficile à respecter. Alors, deuxième commandement positif, honore ton père et ta mère. Selon ce que t'a commandé le Seigneur ton Dieu, une justification est donnée ici, afin que se prolongent tes jours. Donc on voit que l'enjeu, c'est la vie, hein, la vie d'abord vue comme une vie qui dure davantage. Et afin qu'il t'arrive du bonheur, donc le mot bonheur, c'est le mot bien, hein, c'est tov en hébreu, afin qu'il t'arrive du bien, du bonheur, sur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne. On n'est pas entré dans la terre promise, dans le Deutéronome, on est juste au moment où on va y entrer, mais on nous rappelle que le sol, la terre, est un don de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce commandement est considéré par les Juifs et peut être compris par nous comme celui qui fait la transition entre le respect de Dieu comme créateur et le respect de toutes les règles sociales qui nous unissent à ceux que nous pouvons dire frères en société ou frères en humanité. Donc la fraternité, hein, liberté, égalité, fraternité, la fraternité, pour le juif, elle est toujours ancrée dans une paternité. Une fraternité sans père, c'est un leurre. Alors après viennent les commandements que vous connaissez, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Donc le mot hébreu pour le verset 19, là, le septième commandement chez nous, c'était tu ne commettras pas de rapt. Donc c'est l'interdiction de s'emparer d'un être humain pour en faire un esclave. Alors, bien sûr, le respect de l'autre passe par le respect de ses biens. On peut comprendre, ce « tu ne voleras pas » comme traduction qui est acceptée depuis des siècles. Mais c'est vrai qu'avec le terrorisme d'aujourd'hui, on a envie parfois de rappeler, et d'ailleurs le pape Jean-Paul II l'a rappelé vigoureusement à la mafia, que l'enlèvement de personnes, ça ne se fait pas, quoi. C'est contre la volonté de Dieu. Et pour moi, ça touche aujourd'hui toutes ces manipulations de l'embryon qui font que finalement, on considère les embryons non pas comme des personnes, mais comme des objets pour le laboratoire, des objets pour la médecine, même comme des enfants à faire adopter par d'autres. Mais qu'est-ce que c'est que de faire des fécondations d'enfants à adopter par d'autres? Enfin, est-ce que l'enfant est vraiment attendu pour lui-même et dans les conditions? Donc, tu ne commettras pas de rapt, tu ne mettras pas la main sur l'autre être humain, donc reçoit une extension nouvelle aujourd'hui. Et bon, à la fin, donc tu ne convoiteras pas. Donc il y a un tournant dans ce dixième commandement chez les Juifs, le neuvième chez nous, parce que tous les commandements antécédents, disons, sont faciles à respecter matériellement. Pour respecter le sabbat, ben on ne se promène pas, on ne fait pas la cuisine, etc., du vendredi soir au samedi soir, quoi. Bon. Ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. Jean-Paul II, dans Veritatis Splendor, insiste là-dessus. Les commandements négatifs sont des commandements que personne ne peut vous obliger à transgresser. Tu ne voleras pas. On ne peut pas vous obliger à voler. On peut vous mettre sous une contrainte telle que vous cédiez finalement, mais... Hein? Donc on ne peut pas être empêché d'observer les commandements négatifs. Mais on peut être empêché d'observer un commandement positif. Ça, oui, si je dis va te laver les dents, on peut empêcher quelqu'un d'aller se laver les dents, on lui arrache sa brosse à dents. Donc les commandements négatifs ont une espèce d'universalité et d'être à notre portée de façon spéciale, quoi. Mais donc ils sont observables, mais tu ne convoiteras pas. Qui est-ce qui maîtrise son désir? Donc le dernier commandement entre tout à coup dans le cœur de la personne. Et c'est après toute une éducation positive, observable, etc., que Dieu ose s'adresser au cœur de la personne, à ses désirs. Jésus, lui, il n'hésitera pas à aller au cœur de la personne, on le verra à ce moment-là. Mais donc ce dixième commandement est spécial parce qu'il vient à la racine de ce qui fait qu'on désobéit aux autres commandements. Pourquoi est-ce qu'on tue? Pourquoi est-ce qu'on vole? C'est par la convoitise. On veut du territoire, on veut des biens, on veut... Voilà. Donc c'est le désir qui est au centre. C'est pour ça que saint Paul dit que la loi, les commandements en tout cas, peuvent être résumés dans « tu ne convoiteras pas ». Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu du feu, des nuages et de la sombre nuée, d'une voix forte, et il n'a rien ajouté. Donc c'est ce que je vous avais expliqué il y a 15 jours, la canonisation d'un texte. Dieu a dit cela et il n'a rien ajouté. Voilà que les 10 paroles sont un ensemble auquel il ne faut pas ajouter ni retrancher. C'est un ensemble qui a une cohérence, qui exprime quelque chose d'organique, et il ne s'agit pas d'enlever un commandement, etc. On dit ça aujourd'hui d'une autre manière, en disant que les droits de l'homme sont indivisibles. On ne peut pas dire, moi je respecte 134 des 135 droits de l'homme. Je ne respecte pas l'homme si je ne les respecte pas tous, quoi. Quelque chose comme ça. Et il les a écrites sur 2 tables de pierre et me les a données. Donc la semaine prochaine, nous verrons ce qui est arrivé à ces 2 tables autographes du Seigneur. Donc nous nous voyons la semaine prochaine. Alors vous verrez que dans les textes qui sont proposés à lire, j'ai proposé de relire Deutéronome 4, 5, 6. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous croyez l'avoir déjà bien lu, mais sinon on ne perd rien à reprendre, surtout le Deutéronome. Voilà, ceux qui... Donc, ah oui, pardon. Une annonce du président des étudiants.